Alors, bah, l'idée, là, vous avez déjà plusieurs fois parlé, mais nous, on vous avait pas enregistré dans le cadre de notre production vidéo au titre du programme de recherche donc sur le PLU patrimonial. Voilà, l'idée, c'est d'enregistrer votre point de vue sur sur cet objet. Alors, il y a plein de manières, je ne doute pas que vous allez très vite partir sur le sujet. Voilà, et il y a plein de manières d'aborder les choses. Je disais à Mathieu que sortant de l'entretien avec Madame Ferrat, une manière de l'aborder, ça pourrait être de rappeler le rôle de la Fédération Patrimoine-Environnement ou plus généralement du G8 Patrimoine lors des débats sur le projet de loi CAP pour globalement chercher à sortir le PLU des outils de gestion des sites patrimoniaux remarquables. Voilà. Donc, ça... Pourquoi ?
Ça y est, c'est fait.
Ça, c'est fait, mais pourquoi ? Oui. Voilà, alors vous, peut-être rappeler juste comme ça devant la caméra votre fonction, tout simplement, et puis quel rôle la Fédération a pu jouer, ou le G8 Patrimoine a pu jouer dans ce projet de loi sur cette articulation patrimoine et PLU.
D'accord. Bon.
Ça roule.
Bien, je suis président d'une fédération qui s'appelle Patrimoine Environnement et qui est issue de la fusion de deux vieilles institutions françaises, l'une qui s'appelait la Ligue Urbaine et Rurale et qui a été créée juste après la guerre. Le premier président était Paul Claudel et l'autre qui a été créée un petit peu plus tard par un conseiller d'État. Il s'appelait Henri de Ségogne et qui a été l'auteur, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, de la loi qui a créé les secteurs sauvegardés, qui était une loi, ma foi, pas trop mal faite. J'ai eu l'occasion de le dire en 4 ou 5 articles. On a essayé de faire en sorte que, c'était l'idée de Malraux, 400 sites existent en France. Finalement, il y a l'accent pour l'instant, mais enfin, tous les espoirs sont permis avec la loi nouvelle. Alors, bien entendu, et pour les raisons que je viens d'évoquer, nous sommes toujours intéressés à ce qui se passait dans les anciens secteurs sauvegardés, dans les anciennes ZP, PAUP, AVAP, etc. Et mon association a été tout à fait à la pointe au moment des lois Grenelle, lorsque s'est posé le problème de la poursuite des ZPPAUP et des AVAP. Vous savez que le Parlement voulait la disparition à l'époque, et nous avons réussi à faire en sorte qu'il y ait un sauvetage provisoire, mais qui était limité dans le temps, donc... c'était pas quelque chose de vraiment à long terme, quoi. Alors, quand le ministère de la Culture a voulu faire ce qui, à l'époque, était présenté comme une grande loi patrimoine, nous y sommes vraiment intéressés. Et je dois dire que nous avons été assez déçus de la première version de ce projet de loi. Pourquoi est-ce que nous avons été déçus ? Parce que nous avions vraiment l'impression qu'on était en voie de régression. C'est-à-dire que, en tirant toutes les conséquences de la décentralisation, et beaucoup trop de conséquences d'ailleurs de la décentralisation à notre avis, on était en train de diminuer toutes les protections et tous les mécanismes qui pouvaient conduire à une restauration, en particulier des centres urbains, mais pas que. Il y avait aussi les centres-bourgs, il y avait aussi un certain nombre d'autres choses dans les anciens secteurs dits des abords. Et donc nous avons très vite pris des positions en disant que ce projet de loi ne nous déplaisait pas en ce que il permettait de sauver les AVAP et les ZPPAUP en les réintégrant dans un système qu'on a appelé ensuite remarquables, sites patrimoniaux remarquables. Ça nous paraissait absolument indispensable. Donc rien que pour ça, nous étions des supporters de ce texte. Et puis il y avait deux autres points qui nous intéressaient bien. Je le cite ici parce qu'il devient intéressant sans doute dans les travaux qui sont les vôtres, et qui était de créer un régime juridique pour les biens du patrimoine mondial inscrits sur la liste de l'UNESCO, alors que ce régime juridique n'existait pas en France, puisque la Convention internationale n'avait pas d'effet direct, et par conséquent qu'un bien inscrit sur la liste ne disposait d'aucune protection particulière en dehors de celle qui pouvait exister dans la loi française. Nous avons énormément travaillé avec le Sénat, et avec l'Assemblée nationale aussi, mais surtout avec le Sénat, et avec les deux rapporteurs sénatoriaux, M. Jean-Pierre Leleu et Mme Françoise Férat. Et je dois reconnaître que on a abouti à un texte qui est quand même très différent de celui qui avait été prévu au départ. Et ceci est d'autant plus intéressant qu'apparemment le ministère de la Culture et son administration ont adhéré progressivement à ce qui était proposé par les parlementaires, et qu'aujourd'hui on est en face d'une situation où il y a du grain à moudre, disons, pour le patrimoine à notre avis. Donc voilà notre manière d'aborder la question. Alors, si vous me demandez ce que je pense des PLU patrimoniaux, eh bien, je dirais ça peut-être en quelques points. Bon, le premier point, c'est que lorsque ces PLU patrimoniaux ont été créés dans la loi SRU, nous, on était plutôt pour, évidemment, puisqu'il s'agissait de créer une protection supplémentaire d'origine municipale pour un certain nombre d'immeubles d'éléments naturels. Et nous avons été plutôt contents lorsque la ville de Paris a pris l'initiative de créer une liste de 5000 protections municipales la première année, que le préfet de la région Île-de-France s'est empressé de saisir le tribunal administratif contre cette décision, et que l'État a perdu son procès, ce qui fait que ça a laissé désormais une place jurisprudentielle pour ces protections des PLU patrimoniaux. Nous avons vu ensuite que dans d'autres villes, en particulier à Bordeaux, on a tout de suite créé des régimes juridiques à l'intérieur des immeubles protégés, ce qui n'avait pas été le cas à Paris dans le premier temps, c'était simplement une liste d'immeubles. Et petit à petit, on a ainsi créé un régime, disons, au moins statiquement utile, dépassant largement les époques ou les types de construction qui étaient protégés par les lois de 1913, ou même les lois naturelles de la protection des sites en 1930. Cette situation, elle était évidemment intéressante en ce que, partant de zéro, on arrivait à un stade utile. Ce que nous ne voulions pas, c'était que, dans la mesure où un certain nombre de secteurs géographiques étaient protégés d'une manière beaucoup plus efficace par des secteurs sauvegardés ou par des ZPPAUP, on redescende à ce niveau-là, au niveau des PLU patrimoniaux. C'était une de nos craintes, on l'a dit. Et puis l'autre crainte, c'était que l'État se désengage complètement de tout ça et que finalement on reste dans une situation où le maire et son conseil municipal, et puis de plus fort les EPCI après ça, se trouvaient en situation non seulement de faire ce qu'il voulait, mais de faire ce qu'il voulait aussi pour supprimer les protections, puisque dans le système du PLU, chaque révision du PLU, chaque modification du PLU permettait de mettre à mal la protection. Et le praticien que j'ai été pendant 40 ans m'a appris que, c'est une formule que j'emploie souvent, quand il y a une modification d'un PLU, il y a généralement un loup derrière. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une personne, d'un promoteur ou d'un constructeur ou d'un industriel qui veut se faire donner une autorisation de faire n'importe quoi, disons le mot, et avec un bon petit chantage à l'emploi, le maire dit ben, ça sera comme ça, je l'impose à tout le monde, quoi. Et donc au fil du temps, les dispositions réglementaires qui faisaient que ces modifications de PLU étaient de plus en plus fréquentes et évidentes, afin d'éviter de passer par la procédure dite de révision, qui était beaucoup plus solide, eh bien tout ça nous créait beaucoup d'inquiétudes. Alors, c'est dans ces conditions que le Sénat a repris tout ça, et qu'il a finalement considéré que le PLU était une technique qu'il fallait conserver, qu'elle avait son utilité, que ça permettait de protéger des choses qui n'étaient pas autrement, et de créer des dynamiques, peut-être, mais que la structure essentielle de la nouvelle loi, c'est-à-dire le site patrimonial remarquable, qui englobait à la fois les secteurs sauvegardés et les anciennes ZPP-AUP et certains abords, que cette procédure-là soit exclusive du PLU patrimonial. Voilà ce qu'on peut dire d'une manière un peu globale, quoi. Voilà.
Alors, on comprend bien l'argumentaire qui différencie les sites patrimoniaux remarquables pour lesquels, donc finalement, la loi effectivement a confirmé qu'il fallait un outil dédié, que ce soit un plan de sauvegarde, une mise en valeur ou un plan de valorisation de l'architecture du patrimoine. Donc, par contre, le PLU pourrait garder un rôle en matière de protection et de gestion des patrimoines, en tout cas d'identification et de protection des patrimoines, donc hors de ces quelques centaines de sites patrimoniaux remarquables, parce que si on met bout à bout donc une centaine de secteurs sauvegardés, 700, 750 AVAP, enfin je ne sais pas quel est le compteur exact
moins,
aujourd'hui.
Moins que ça
approuvé, oui, voilà.
Peut-être, oui.
Donc est-ce que du coup, enfin, malgré les inconvénients que vous venez de rappeler, entre autres la volatilité potentielle du PLU, est-ce que malgré tout le PLU est suffisamment outillé, donc est-ce que le régime du PLU dans le code de l'urbanisme est suffisamment outillé pour servir le patrimoine?
J'aurais envie de dire trois choses. La première, c'est que l'outillage qui est à la disposition du maire et de son conseil, enfin de l'autorité d'urbanisme, comme on dit aujourd'hui, qui va de plus en plus souvent être une EPCI avec compétences urbanistiques, c'est-à-dire des zones très importantes, notamment dans le monde rural, ça dépend beaucoup de la volonté municipale de créer un régime juridique dans le PLU. Parce qu'on peut très bien écrire dans le PLU le minimum de ce qui est dans le code de l'urbanisme, c'est-à-dire que on va avoir une liste d'immeubles ou de sites ou d'éléments naturels ou même d'îlots, voire même de quartiers plus importants qui vont se trouver dans la protection municipale, mais on peut très bien se contenter de ça. On n'est pas obligé de créer un régime juridique. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des villes qui ont fait l'effort de créer quelque chose derrière, quelquefois par nécessité. Si vous voulez, quand à Paris, on a fait une liste d'immeubles, on s'est aperçu que c'était bien gentil tout ça, mais que quand il y avait un propriétaire qui voulait vendre son immeuble et qu'il vendait à quelqu'un qui avait l'intention d'en faire quelque chose d'autre, cette protection n'empêchait pas, par exemple, ce qu'on appelle le façadisme, c'est-à-dire qu'on garde la façade et que derrière, on fasse quelque chose de complètement neuf, par exemple. Confronté à ces difficultés, et en particulier à une chose qui est très importante dans les sites patrimoniaux remarquables, comme c'était déjà le cas dans les secteurs sauvegardés, qui est le droit de démolition, il n'y avait absolument rien là-dessus de particulier dans le texte du Code de l'urbanisme. Donc dans les villes où on s'est servi du PLU patrimonial, à Paris dans la deuxième vague, à Bordeaux en particulier, mais dans d'autres endroits aussi, on s'est mis à créer un véritable régime juridique qui ressemblait de plus en plus à ce qui était dans un secteur sauvegardé, c'est-à-dire des fiches d'immeubles, des puits de lumière, des démolitions obligatoires, enfin, un certain nombre de choses comme ça. Et alors là, ben, évidemment, on se rapprochait des choses, quoi, comme le disait un ancien directeur du patrimoine, le secteur sauvegardé, c'est la Rolls du patrimoine, et d'autres ont dit que le PLU, c'était la deux chevaux, ben la deux chevaux se rapprochait de la Rolls par le biais de ces dispositions, mais qui sont des dispositions purement réglementaires de niveau municipal, c'est uniquement un PLU. Ils sont sanctionnés par rien d'autre que par les règles générales du PLU, et avec toujours l'inconvénient de pouvoir que la municipalité suivante démolisse ce qu'avait fait la précédente. Donc, sur ce plan-là, je dirais que tout dépend de la volonté politique locale à intenter. Avec quand même des avantages, c'est-à-dire que je sais que là encore, je reprends l'exemple de Paris, mais on a aussi ça dans le nouveau secteur du Nord-Pas-de-Calais, autour des mines, où il n'y avait pratiquement pas grand-chose à sauvegarder, où on sauvegarde les écoles, les bains-douches, les postes, vous avez des choses comme ça, qui sont beaucoup plus récentes que toute autre chose, et dont on garde une trace grâce, il faut le dire, à une protection municipale, puisque ça, on ne le retrouve pas du tout, pour l'instant en tout cas, dans les autres niveaux de protection qui sont peut-être d'un niveau plus ancien ou esthétiquement plus fort, quoi. Bon. Ça c'est une vérité, donc c'est ça a son utilité. La deuxième chose qui n'était pas forcément évidente au départ, c'est que comme notre tentative d'obtenir un véritable régime juridique pour le patrimoine de l'UNESCO est pour l'instant plus ou moins en état d'échec, c'est-à-dire que les décrets n'ont pas suivi. Donc le régime juridique, il est un peu... on ne sait pas très bien quelles sont, comment dirais-je, les contraintes qui peuvent se produire pour qu'un maire, par exemple, ou une autorité d'urbanisme de PCI... applique par exemple un plan de gestion, une zone tampon, s'il n'en a pas envie. On espérait que dans le décret il y aurait des choses beaucoup plus drastiques, mais il n'y a rien dans le décret, il n'y a pratiquement rien. Et alors c'est là où, très curieusement, je vous l'avais dit une fois d'ailleurs, je crois, à la tribune des JJP, très, très curieusement, il risque d'y avoir des initiatives locales intéressantes à partir de l'outil que constitue le PLU. Parce que si un maire veut mettre dans son PLU, sans aller plus loin, moi je préférerais qu'il aille beaucoup plus loin, bien entendu, mais sans aller plus loin, un certain nombre de règles qui sont les règles initiées par l'UNESCO et par les gens qui gèrent le bien du patrimoine mondial, bah, c'est possible. Donc ça crée une piste à laquelle on n'avait peut-être pas pensé. On est obligé de le dire, en attendant un décret qui soit solide. Mais pour que ce décret intervienne, c'est toujours l'éternel problème du droit de l'urbanisme par rapport à la culture, encore faudrait-il que les autorités de l'État qui sont en charge des deux secteurs, de la culture et de l'urbanisme, emprunte une voie qui soit commune, ce qui n'est évidemment pas le cas pour l'instant, chacun le sait. Donc voilà ce qu'on peut en dire, me semble-t-il, aujourd'hui. Maintenant, ce qui nous dérangeait le plus dans le système qui avait été proposé par le ministère de la Culture en début d'examen du projet de loi, c'était essentiellement la disparition pure et simple de l'État dans le processus d'élaboration de mesures de protection telles. Voilà. J'ajouterais peut-être une chose, mais qui ressemble un peu, là aussi c'est des pistes, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc on vient de pondre un décret sur l'expérimentation. Madame Azoulay y tenait beaucoup, elle avait beaucoup insisté là-dessus, et la rapporteure, Madame Ferrat, avait fini par se joindre à son idée. Enfin, elle n'avait pas demandé un vote négatif du Sénat sur les zones d'expérimentation. Et donc, on a un décret sur les zones d'expérimentation qui, là-dessus, c'est un peu, c'est loin New York, des tours et nages, ce truc-là, pour l'instant. Il est assez probable que des règles d'urbanisme local pourraient éventuellement servir et faire l'objet de réflexions dans des périmètres d'expérimentation. Nous, ça ne nous rassure pas spécialement, tout ça, mais enfin, c'est pas exclu. La dernière chose que je voudrais dire, et qui a, aux yeux de notre fédération, alors, été absolument essentielle, c'est même un de nos leitmotivs, c'est que nous pensons que quand le public n'est pas associé à des réformes d'urbanisme qui vont notamment dans le sens de la protection, ça se passe généralement assez mal. Et les PLU patrimoniaux, à mon avis, n'auront de chance d'aboutir à quelque chose que si ce sont des institutions qui fonctionnent avec une véritable concertation préalable. Alors là aussi, vous le savez, on a beau le dire, le répéter sur tous les tons, on est encore très très loin. Malgré les grands discours électoraux que nous avons entendus encore ces derniers temps, d'une véritable association du public aux procédures de PLU. Enfin, ça dépend des villes, il y en a qui font un travail intéressant, mais enfin, globalement, dans toutes les petites agglomérations, etc., c'est très souvent des oucases plus qu'autre chose, quoi. Voilà ce que j'aurais envie de dire là-dessus.
Alors, on pourrait repartir sur beaucoup de sujets, mais par exemple sur ce dernier sujet, est-ce que c'est pas d'ailleurs un des problèmes que rencontrent les collectivités, celui de l'ingénierie territoriale, qui pose aussi un problème de temporalité. Alors il y a la temporalité du PLU qui est probablement plus courte que celle d'un document dédié type PSMV ou PVAP. Mais en sens inverse, il y a aussi les échéances en termes d'adoption d'un document d'urbanisme qui font que si l'ingénierie est en plus un peu dépassée par l'enjeu patrimonial, elle ne prend pas forcément le temps d'un échange sain et précis sur la question du patrimoine. Voilà. Alors c'est la question sur l'ingénierie des collectivités, sur ces questions de patrimoine, mais qui pose des questions aussi de temps, de... et aussi d'ailleurs de diversité des patrimoines identifiés du coup.
Alors, ce que je peux dire, mais c'est une manière un peu globale de prendre la question, c'est que vous savez que notre association a créé il y a très longtemps un concours des entrées de ville et que nous l'avons relancé très sérieusement depuis 2 ans et que nous avons maintenant un colloque l'année où on ne donne pas le prix avec un certain nombre de gens pour parler de ces entrées de ville. Et nous avons travaillé cette année avec des Hollandais. Et ce qui les Hollandais nous disent très gentiment qu'on a, on a au moins 10 ans de retard quoi, sur ces réflexions-là. Pourquoi ? Parce que les gens qui s'occupent d'urbanisme d'une manière un peu globale n'ont pas intégré un certain nombre de choses qu'ils auraient dû intégrer dans certains endroits, par exemple sur les côtes. Les Hollandais, eux, ils savent que dans 30 ans, la moitié du pays sera sous la flotte. Et que donc, il faut qu'ils se préparent à ça. Ils savent aussi, mais ça c'est plus quelque chose qu'ils peuvent nous renvoyer à nous Français, ils savent aussi que un certain nombre de problèmes qui sont très récurrents aujourd'hui dans les villes ne seront plus des problèmes dans quelques temps. Par exemple, l'excès de voitures, par exemple, un déficit de transport en commun, par exemple, l'utilisation de bicyclettes électriques, enfin, toutes choses comme ça. Par exemple, une logistique pour les livraisons dans les centres-villes qui consiste à ce que derrière la gare, vous ayez un plateau de gros camions qui desservent les tout petits camions qui vont se faufiler dans les ruelles pour amener les choses, etc. Toutes ces choses-là qui sont en devenir et qui ne sont pas vraiment intégrées dans les différentes techniques d'ingénierie dont vous parliez tout à l'heure. Bon, et donc nous avons besoin, semble-t-il, dans tous ces domaines, de prendre une véritable avance sur ce qui se passe en ce moment pour aller un peu plus loin. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense que ce genre d'initiative, c'est l'initiative des villes. C'est pas l'initiative de l'État. C'est des expériences locales, diverses et variées, qui peuvent exister ici ou là, qui évidemment nous intéressent beaucoup dans la question des centres-villes, de toutes ces choses-là. Donc là, il y a sans doute beaucoup à dire et à faire, mais il me semble pour ma part que la question de l'intégration de la population dans le jeu, écoutez, c'est pas compliqué, le président de la République sortant vient de prendre une ordonnance là-dessus, c'est de la logomachie, malgré tout le respect que je lui dois, bien entendu. C'est-à-dire qu'on en est toujours à la commission sur le débat public, à des choses comme ça, qui ne correspondent pas réellement à une véritable association des gens au fur et à mesure d'un processus, quoi. J'ai pas dit que c'était facile, hein. J'ai souvent dit que je préférais être à la place où je suis, moi, qui est assez critique, qu'à la place du maire qui doit essayer de trouver les outils pour faire cette pour organiser cette discussion. Mais il n'en reste pas moins que je pense que dans tous ces domaines-là, on a quand même énormément de retard.
Est-ce que le PLU, du coup, favorise davantage potentiellement cette même si ça se fait pas sur le terrain comme il faudrait que ça se fasse, est-ce qu'on peut considérer que ça favorise davantage la concertation que l'élaboration d'un outil dédié qui est souvent une élaboration qui se fait sur du temps très long, quand on regarde une mise en valeur, ça on le sait, sur des anciennes AVAP, sûrement les PVAP demain, on restera peut-être sur des délais un peu plus courts, mais est-ce qu'éventuellement là aussi il y a un avantage ou des inconvénients à ce que la planification urbaine se charge de ces enjeux de patrimoine?
Écoutez, dans la mesure où il va exister les deux systèmes, de toute façon, ils sont dans la loi, on pourra les utiliser l'un et l'autre, c'est évident. C'est pas exclu que le PLU soit un instrument peut-être plus souple. C'est un peu comme ça qu'on l'a voulu. Et on ne veut pas que les mesures de protection, par exemple, d'un secteur sauvegardé soient trop souples, parce que sinon, vous savez, enfin, j'emploie ce terme souple à dessein, parce que vous savez que notre Conseil d'État a inventé le droit souple, ce qui, quand on a été juriste pendant 40 ans, vous fait quand même un drôle d'effet. Un drôle d'effet, il faut bien le dire. Mais enfin, c'est comme ça. Il y a certainement dans le PLU bien conduit un certain nombre de souplesses quand il y a une municipalité qui veut faire les choses. Mais il y a aussi, je l'ai dit, ça va dans les deux sens. Et ce qui nous fait très peur dans le PLU, c'est sa très facile modification. À chaque fois que on veut faire en sorte que et on passe outre une protection pour des raisons qui sont pas toujours très nobles, il faut quand même le dire.
Du coup, en la matière, est-ce que le passage à de très grosses intercommunalités ne va pas remettre de la rigidité dans la vie d'un document qui est effectivement beaucoup plus souple à la base qu'un document patrimonial dédié? Et finalement, le fait de monter sur des intercommunalités de plusieurs dizaines de communes quand ça n'atteint pas plus de 100 communes, est-ce que finalement, ça ne va pas redonner cette rigidité permettant de sécuriser, par exemple, un niveau de protection patrimoniale?
Je vous donnerai deux exemples qui me viennent à l'esprit et que je vois dans la pratique de notre association. Le premier exemple, c'est celui des églises. Il ne s'agit pas d'être pratiquant ou pas pratiquant, l'église en tant qu'instrument d'identification locale est non protégée, mais pouvant être protégée par le PLU. Ce qui fait très peur, et ça a d'ailleurs fait l'objet d'un certain nombre de débats au Sénat, ce qui fait très peur à tout le monde, y compris d'ailleurs à l'Association des maires de France et à beaucoup de maires, c'est que si vous avez par exemple un EPCI dans lequel vous avez 15 clochers, le président de l'EPCI va se dire bah, si on en met 3 ou 4 en l'air, ça ne me dérange pas. En tout cas, c'est pas une catastrophe nationale. Alors que si c'est le maire de la commune, même s'il bouffe du curé tous les matins, il ne voudra pas qu'on touche à son église. Et donc là, il y a des débats qui sont des débats identitaires, je dirais, mais pas identitaires au sens qu'on a trop employé pendant la campagne électorale, une véritable identité locale des gens qui pose quand même pas mal de problèmes. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que on voit bien ça quand les gens viennent nous voir et nous demander des renseignements et des aides sur ceci ou sur cela. Il y a une espèce de, comment dirais-je, de bagarre perpétuelle qui sans doute ne s'arrêtera jamais entre les gens qui ont envie de conserver quelque chose et ceux qui ont envie de moderniser, voire même de raser. Il me semble qu'il faut qu'il y ait une vie démocratique autour de ça. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on rase quelque chose, à la condition que ça se fasse d'une manière démocratique. Et du patrimoine, bah, la dernière histoire, c'est pas un scoop, ça se passe dans la commune de Viroflay, en région parisienne. Il y a une association qui voulait depuis longtemps protéger une maison qui n'était pas classée ni inscrite, avec un parc autour qui s'appelait Bon Repos, et qu'ils aimaient bien. Et on a demandé un classement. Alors là, on est quand même très embêté parce qu'il y avait un incendie la semaine dernière et tout est parti en fumée. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va reconstruire quelque chose ou est-ce qu'on va en faire un terrain de promoteur? Bah, il me semble qu'il y a matière là à une discussion avec le public. Mais elle n'est pas obligatoire hein, aujourd'hui. Sauf par le biais de l'enquête publique. Et là-dessus, la lettre ouverte que nous avons publiée avec toutes les associations du G8 Patrimoine et la Fondation du Patrimoine, nous avons demandé qu'on mette de l'ordre dans les enquêtes publiques. Et là-dessus, c'est quand même assez intéressant de voir que nous l'avons demandé avec les villes et pays d'arrêt d'histoire, qui pourtant n'aiment pas trop ça, les enquêtes publiques. Quand on est maire, on n'aime pas trop. Et nous l'avons demandé tous ensemble, cette réforme des enquêtes publiques. Là, il y a encore beaucoup de choses à faire, semble-t-il.
J'ai peut-être une dernière question, puis Mathieu, je ne sais pas si tu me laisses. Vous parliez de droit souple tout à l'heure. Alors, c'est vrai que c'est bien ce qu'on peut aussi craindre dans la prise en charge en tout cas exclusive, hein, du patrimoine par le seul document d'urbanisme. Comme toujours, on sort des sites patrimoniaux remarquables. Et qu'est-ce que vous pensez justement du fait qu'à terme, les nouveaux règlements de PLU pourront carrément se dispenser d'un règlement, c'est-à-dire que c'est même plus du droit souple, c'est presque de l'absence de droit. Alors, c'est pas aussi caricatural, puisqu'il peut y avoir une OAP patrimoniale, il y a un renvoi aux règles du RNU, mais voilà, comment entre du droit rigide, du droit souple et presque une quasi-absence de règles, comment vous voyez l'avenir
patrimoine. Avant qu'on parle de droit souple au Conseil d'État, on parlait beaucoup d'urbanisme de projet, ce qui est pour moi à peu près la même chose, grosso modo, et qui consistait, et je me rappelle avoir assisté à je ne sais combien de discussions avec un ministre qui, à l'époque, s'appelait Monsieur Apparu, et qui nous avait convoqués à de très nombreuses occasions pour nous faire part des idées de ses équipes sur cette réforme du Code de l'urbanisme. Et consistait à dire, j'arrive, j'ai un projet, donc et à partir de ce moment-là, j'impose mes règles, et si ces règles sont validées, mais par qui ? Par le conseil municipal ? Par la population ? Par ça, j'y vais et je fonce. Bon, vous donner un exemple, là encore, dans la ville de Paris, on s'était aperçu au moment où on regardait, il y avait beaucoup de gens qui critiquaient les permis de construire des tours, on s'était aperçu qu'en fait, il n'y avait pratiquement pas de délibération normative dans la ville de Paris qui disait il y a une hauteur maximum. Ça n'existait pas. Et donc, aujourd'hui, dans la ville de Paris, le système, c'est la modification du PLU. C'est-à-dire que quand vous voulez construire une tour qui est quand même, je dirais, d'intérêt, entre guillemets, général pour les 2 millions de Parisiens, puisque vous allez la voir depuis Denfert-Rochereau jusqu'à je ne sais pas où, eh bien, vous allez faire une modification du PLU, c'est tout. Et on dit, mais c'est pas grave, puisque c'est un tout petit territoire. Donc c'est pas par rapport à l'ensemble de la superficie de la ville de Paris, c'est pas grand-chose, donc ça ne mérite pas plus qu'une modification du PLU. Bon, on voit bien que tout ça, ça pose quand même, me semble-t-il, pas mal de problèmes. Mais surtout, alors, vous me direz que c'est là où je peux être pris à mon propre piège, si vous voulez. Autre exemple que je donne, c'est la fondation Vuitton dans le bois de Boulogne. Bon, chacun sait que là, le Conseil d'État a fait du droit souple. Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'il a carrément violé toutes les règles de droit pour dire c'est très bien, continuez. Bon, beaucoup d'associations du patrimoine se sont élevées très fortement contre ça. Ce qui était purement de l'urbanisme de projet au sens plus, finalement. On a même dit, le Conseil d'État a même donné toutes les facilités pour le faire. Eh bien, aujourd'hui, je parle en mon nom personnel, évidemment, pas au nom de mon association. C'est vrai, quand on regarde la Fondation Vuitton, c'est sans doute quelque chose qui va rester dans l'histoire du XXe siècle. D'autant plus que ça ne dérange rien autour, puisque c'est des bois. Donc, il n'y a pas de comparaison avec ceci ou ça qu'on pourrait voir à côté. Donc, c'est vrai que, de temps en temps, cet urbanisme de projet, quand on prend du recul et qu'on regarde derrière soi, il peut être intéressant. Donc, je ne dis pas que tout ça est négatif. Ceci étant, il y a quand même un jour quelqu'un qui a inventé la tour Eiffel de cette façon-là, et c'est toujours aussi moche, il faut quand même le dire, très très longtemps après. Bon.
Alors, puisque vous parlez de dossier parisien, du coup, votre point de vue sur la Samaritaine et l'interprétation controversée par les juges de première instance et d'appel, et puis du Conseil d'État, de l'article 11 du PLU.
Alors, moi je dirais que alors, ça ne me dérange pas sur le terrain du processus juridique. C'est-à-dire que là, on n'a pas changé les règles. On a simplement appliqué les règles du PLU qui ont été à peu près respectées. Alors après ça, la manière dont on les respecte et le regard esthétique qu'on a dessus, c'est pas forcément le même pour tout le monde. Mais sur le plan de la norme, moi je considère que là, le processus a été respecté. On ne pouvait pas dire, ceux qui connaissent un peu la rue de Rivoli, qu'il y avait une discontinuité de façade, par exemple, alors que ce qui était dit dans le PLU, c'était ça. Il ne fallait pas qu'il y ait une discontinuité de façade, il n'y en a pas eu. Mais par contre, sur le plan esthétique, on peut en penser ce qu'on veut, évidemment. Je me rappelle, dans l'époque apparue, on nous a beaucoup cité ce qui se passait à Barcelone. Où à Barcelone, la règle, c'est uniquement ça. C'est-à-dire, l'îlot, vous prenez un îlot, si vous gardez l'alignement de l'îlot sur ses 3, 4 ou 5 côtés, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. Et les gens respectent ça. Parce que, à la limite, ils peuvent peut-être pas tellement faire autrement, pour aller respecter des rues, des choses, etc. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, j'entends bien. Alors c'est là où on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'expérimentation. On nous a beaucoup dit, Madame Azoulay l'a dit beaucoup d'ailleurs au Sénat, j'en entends encore ces propos. Vous inquiétez pas, ce sera très encadré. Mais alors là, ça devient de la philosophie, parce que l'encadrement, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'urbanisme de projet ? Si c'est encadré, c'est plus la grande liberté. Moi, j'ai toujours dit, de manière un peu caricaturale, j'en conviens, que M. Niemeyer, c'est facile de faire Brasilia dans sa baignoire, surtout quand on sait qu'on va construire dans un désert. Mais bon, est-ce que Brasilia est une ville aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Il faut 200 ans pour faire une ville.
Merci. Je sais pas si tu voulais poser une question.
J'ai bien brossé.
Oui.
Peut-être juste, mais pour conclure, pour revenir sur la loi CAP, au final, pour vous, ça constitue une avancée pour les espaces protégés ou pas ?
La loi CAP ? Je pense que oui.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que le système d'intervention de l'État, des collectivités décentralisées et de la société civile est nettement mieux organisé. L'État reste là, il voulait s'en aller, on l'a retenu par ses basques. Les collectivités ont leur place, et c'était indispensable qu'elles l'aient, évidemment. Dans un pays qui est quand même très girondin, et puis il y a maintenant, enfin, c'est une des avancées de la loi, une place importante pour les associations dans tout ce système de commission dont on espère qu'il va avoir un effet utile. Moi je considère que sur ce point-là c'est un progrès, c'est pas le seul, on est en train de le voir sur les domaines nationaux, c'est un progrès, c'est évident. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de décret, la reconnaissance des patrimoines mondiaux, c'est un progrès. Voilà, il y a quand même pas mal de progrès dans ce texte, c'est sûr.
Merci, monsieur de la Brodie. Merci.